Donc, je suis Stéphane Guyon, j'ai 46 ans et je suis professeur de mathématiques au lycée Bellevue. Voilà. Je viens de la région lyonnaise, donc ça fait 1 an et demi que je suis dans la région et sur l'établissement.
Voilà, donc vous êtes prof de maths et vous avez un système de notation un peu particulier. C'est pas forcément tout le lycée Bellevue qui l'a entrepris, mais vous, dans votre classe de maths, vous l'avez mis en place. C'est un système de notation un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur le fonctionnement?
Alors moi, je travaille depuis 5 ans maintenant uniquement par compétence, c'est-à-dire que je ne mets plus de notes globales sur les copies sur 20. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on ne met plus de notes. Il y en a qui disent que c'est un système sans notes, ce qui n'est pas le cas. Moi, je mets presque plus de notes aux élèves que ceux qui notent sur 20, ce que je remets en cause, mais ce n'est pas moi tout seul. Il y a toute une équipe quand même derrière et tout un tas de gens qui le font, qui remettent en cause l'histoire de la note globale sur une copie. Et donc, sur l'établissement Bellevue, lorsque je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'étais le seul, je suis arrivé quand j'ai continué cette pratique. Et il y avait déjà dans l'établissement toute une réflexion sur l'évaluation par compétences, notamment au collège, avec la mise en place du socle commun. Et donc, à la rentrée de cette année, en septembre 2014, une équipe de 4 collègues, en sixième particulièrement, et Stéphanie Bail en anglais a poursuivi en troisième, a adopté cette façon de travailler, remettant en cause donc la notation, la note globale sur la copie.
Alors, qu'est-ce qu'on remet en cause quand on remet en cause la note globale? C'est quoi?
L'idée, c'est de dire qu'une note globale, quand on rend un 12 sur 20 à un élève, par exemple, il peut avoir l'illusion d'avoir quelque chose d'à peu près correct. 12 sur 20, il a 8 points qu'il n'a pas eu, par évidence. Donc il y a 40% de la copie qu'il ne maîtrise pas, 40% du sujet qui n'est pas acquis. Et quand on rend un 12 sur 20 élève, on ne lui pointe pas ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. On a un jugement extrêmement donc global par définition. Et du coup, est-ce qu'un 12 est meilleur qu'un 13 ou qu'un 11? Là, il y a tout un tas de débats. Au-delà de dire que moi, je mettrais 12 sur 20 à un élève, mais un autre collègue tout aussi consciencieux et rigoureux mettra peut-être un 15 ou un 13 ou un 8. Il y a tout un tas de paramètres qui font que toutes les études montrent que la note sur 20, elle est
Elle manque d'objectivité.
pas simplement d'objectivité, elle est pas scientifique. Si on prend la température dans une salle ou la température, vous prenez votre température corporelle, vous allez voir 3 médecins ou votre tension, ils vont vous trouver exactement les mêmes paramètres. À partir de là, on peut faire un diagnostic. Il y a 3 profs de maths ou 3 profs de n'importe quelle matière qui corrigent 3 copies, il y a 3 notes différentes. Quel diagnostic on peut faire? Et du coup, l'évaluation, elle est forcément, elle n'est pas simple. On est dans du caractère qui n'est pas simplement scientifique et objectif. On n'est pas dans une mesure extrêmement précise et rigoureuse. Et du coup, le fait de mettre une seule note globale, ben, finalement, c'est extrêmement précis pour l'élève. Il est content. Il peut savoir s'il a 12 ou 8. C'est la seule chose que les élèves et les parents retiennent. Avec ça, on fait des moyennes, on fait tout un tas de choses. Mais qu'est-ce que ça signifie véritablement sur des élèves qui ont compris ou pas compris? Je reprends mon exemple d'un élève qui a eu 12 sur 20. Il y a 40% de la copie qu'il n'a pas maîtrisée. Ça se trouve, ces 40% sont essentiels. Imaginez un élève de terminale en histoire géo, il a 12 sur 20, il est content. Il a fait l'impasse sur un chapitre, c'est ben, les 8 points, il ne les a pas eus. C'est le jour du bac qui tombe là-dessus, il n'aura pas 12. Il peut se prendre effectivement une très mauvaise note. Et du coup, il n'y a aucun indicateur sur qu'est-ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas. Et l'évaluation par compétence, du coup, ne se pose plus la question d'avoir ce jugement global où on additionne des compétences extrêmement différentes. Moi, je ne sais pas, je suis professeur de mathématiques. Imaginons que je fasse un devoir de 10 points de calcul et 10 points de géométrie. Deux élèves peuvent avoir 10 sur 20, on va dire qu'ils ont le même niveau, qu'ils sont moyens. Mais un élève peut avoir 10 sur 10 en calcul et 0 sur 10 en géométrie. Est-ce qu'il est moyen? Ben non, il n'est pas moyen. Il est excellent en calcul et très faible en géométrie. Et du coup, un 10 sur 20 moyen n'a pas de sens. Et du coup, moi, je ne mets plus une note qui synthétise plein, plein, plein de compétences et qui, in fine, à mon avis, ne veut plus dire grand-chose. Mais je résume ma copie en en-tête de copie. Il y a 2, 3, 4, 5, 10 compétences évaluées. Je sais calculer, je sais faire ceci, cela, je sais faire de la géométrie, ta, 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 ta. Et l'élève, quand je lui rends, ben, par exemple, si je reprends l'exemple de l'élève qui aurait tout juste en calcul et tout faux en géométrie, il aurait validé toutes les compétences de calcul et je lui pointerai très nettement sur la copie des incompétences en géométrie. Et il n'aurait pas le sentiment d'avoir un 10 ou d'avoir un 12 ou d'avoir un 8. Il verrait très clairement sur sa copie ce qu'il maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas. Et comment dire, le moteur de cette stratégie, au-delà du fait qu'on s'écarte de la notation globale qui n'a pas vraiment de sens, c'est qu'on permet à l'élève de se remédier. Par exemple, je fais une évaluation demain matin, il y a un élève qui ne sait pas faire, il prend 2 sur 20. Je ne suis pas content de la classe, il y a un de ses copains qui a 11, bon, très bien. Je ne suis pas content de la classe, je leur redonne la même évaluation une semaine après pour les remobiliser. Celui qui a 2 passe à 18. Il a travaillé, peu importe pourquoi, il a compris. Son copain qui avait 11 reste à 11. Si on fait le bilan, quel est le meilleur des deux? Celui qui a eu 2 puis 18 ou celui qui a eu 11 et 11? Si on fait une moyenne mathématique, le meilleur c'est celui qui a eu 11 et 11, il a 11 de moyenne. Pourtant, ce n'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est celui qui n'avait rien compris d'abord, qui, peu importe les raisons, il s'est fait réexpliquer, il a retravaillé, peu importe pourquoi, in fine, une semaine après, il sait faire, il maîtrise parfaitement. Sauf qu'il est pénalisé par le 2 qu'il a eu, et on n'a pas droit à l'erreur. La notation sur 20, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle a ce gros inconvénient qui démobilise les élèves, qui les démoralise, notamment les plus faibles, que quand vous avez pris un 2 sur 20, par exemple en maths dans ma matière, votre trimestre, il est cuit. C'est même avec un 18 après, ce qui serait excellent, vous n'arriverez qu'à un 10 de moyenne. Le fait de travailler par compétences, où on n'a plus de notes globales sur une copie, mais on va disséquer tout un tas de petites compétences. Moi, un élève qui ne sait pas faire telle compétence, je lui pointe avec des rouges, avec un jeu de couleurs, il a la possibilité de se faire remédier sur les points que lui choisit et que lui, choisit de repasser. J'ai donc des moments en classe, j'ai mes évaluations qui sont régulières, et régulièrement, en troisième c'est toutes les semaines, en seconde c'est tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, les élèves choisissent les items sur lesquels ils veulent retravailler. C'est-à-dire que je rends une évaluation, un élève n'a pas réussi tel item et tel item. Ça, il y a tout un jeu, un algorithme de calcul qui lui détermine une moyenne, pour rentrer quand même dans les cordes avec l'ensemble des autres collègues. Donc on arrive à une moyenne sur 20. Mais l'élève peut décider, lui, de repasser un item particulier qu'il n'a pas réussi en première éval. Et par un jeu de calcul, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on oublie presque son premier échec. On a le droit, la base de la pédagogie comme ça, de l'évaluation par compétence, c'est le droit à l'erreur. L'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Tout le monde se trompe, et c'est de mes erreurs que j'arrive à avancer. Et du coup, il faut bonifier l'erreur quelque part. Or, le drame aujourd'hui, c'est qu'un élève qui se rend compte en évaluation, et en collège, on en a beaucoup, qui se rend compte quand on leur rend l'évaluation qu'ils ne savent pas faire, et donc on leur rend une mauvaise note, eh bien c'est trop tard. Et on a tous été élèves, quand on vous rend un 2 sur 20, quel est l'intérêt de retravailler? Le chapitre est terminé, on passe au chapitre suivant. Quel est l'intérêt de retravailler le chapitre? Je passe au chapitre suivant. Je ne sais pas faire, j'ai eu 2, je mets dans un tiroir et j'oublie. Mais c'est une catastrophe pour l'année d'après. Même si j'arrive à avoir une moyenne parce que j'ai des 18 au chapitre d'après, le chapitre précédent où j'ai eu 2 n'a jamais été retravaillé. Et du coup, cette façon de travailler par compétence, où l'élève a les clés, l'élève peut décider, lui, de retravailler, de se remobiliser sur les items que lui n'a pas maîtrisés. Alors on arrive à des évaluations qui sont un petit peu étonnantes pour ceux qui n'ont jamais vu ça ou jamais pratiqué. C'est que une évaluation des remédiations, si j'ai 30 élèves, il y a 30 sujets différents. C'est que chaque élève se retravaille ce qu'il n'a pas su faire. Et y compris, j'ai des élèves, on est au mois de mars maintenant, des élèves qui se sont plantés sur des notions du mois d'octobre. Ils les ont retravaillé, peu importe, en février, pour une occasion. Voilà, un oncle qui est passé à la maison, qui est prof de maths, qui est bon en maths, qui a retravaillé un truc. L'élève comprend maintenant un truc qu'il n'avait pas compris en octobre. Il me redemande maintenant, il se réveille réévalué, il est bonifié.
Donc c'est une approche globale du programme annuel, on va dire. Tout au long de l'année, on a la possibilité de revenir, de retravailler pour finalement acquérir le niveau à la fin de l'année.
C'est-à-dire qu'on a le droit, on a le temps d'apprentissage, il n'est pas rythmé par le rythme de mes évaluations. Dit autrement, je fais une évaluation sur un théorème au mois d'octobre. Si l'élève comprend au mois de décembre, il est pénalisé, mais pour l'année d'après. Le problème, c'est quoi? Le jour où j'ai pris la photo, il était pas bien. La photo est ratée pour lui, mais 2 jours après, une semaine après, 15 jours après, il était bien. Mais le problème, c'est la photo. Est-ce que je peux reprendre une autre photo à un autre moment ou pas? Or, le système tel qu'il est aujourd'hui, très figé, et précisément avec cette note globale, fait que l'élève qui comprend 2 mois après, il y a une caricature célèbre, c'est pas simple à la radio, mais qui est faite par un élève, qui est publié dans un certain nombre de livres qu'on peut trouver sur le net, qui est un élève qui lève le doigt en classe, qui dit au prof « Monsieur, ça y est, j'ai compris. » Et le prof qui lui répond « Trop tard, l'évaluation est passée. » Et c'est-à-dire que, et du coup, c'est effectivement très démobilisant. Je trouve que le rythme que moi j'ai de mes évaluations est un rythme sur ma progression de l'année, mais le rythme de l'élève, dans son apprentissage. On a tous été adolescents. Il y a des gamins, à un moment donné, dans leur vie, indépendamment des problèmes personnels, affectifs, sociaux, tout un tas de paramètres qui font que des élèves peuvent avoir des trous pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, des problèmes qui font qu'ils passent à côté à un moment donné. Les élèves ne sont pas linéaires à apprendre chaque jour 3 notions encore le lendemain 3 notions. Il y a des périodes où on peut pendant un mois être complètement à out. Et puis c'est pas grave, on a le droit de se re... Eh ben, il faut donner la possibilité de se remettre après. Il y a des situations de divorce, peu importe, des situations que les élèves vivent pas forcément des choses toujours très simples. Eh ben, si l'évaluation tombe là-dedans, l'élève est doublement pénalisé. Il a et des problèmes personnels qui sont durs à gérer, et en plus, il est pénalisé parce qu'il sait qu'il ne pourra pas rattraper son 2 en maths. Ben, là, voilà. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet, on le fait un état des lieux, tu ne sais pas faire ça, eh bien... En plus, moi, je travaille avec un logiciel qui s'appelle Sacoche, qui est un logiciel qui est extrêmement bien fait, qui est gratuit, libre de droit, monté par une association qui s'appelle Césamath, qui est une association qui issue de profs de maths qui se battent pour une sorte de service public des maths gratuit, les maths pour tous. Et le logiciel donc est extrêmement performant, très ergonomique et vraiment assez exceptionnel, puis gratuit et libre de droit, moi j'insiste. On est une association vraiment qui a pour vocation de développer les maths pour tous. Et par exemple, donc l'élève a un compte-rendu sur une page web où il voit, avec un jeu de couleurs, de rouge-rouge s'il ne sait pas faire, à rouge si c'est moyen, vert si c'est satisfaisant et vert-vert si c'est excellent. Et l'élève donc peut voir tous ces rouges-rouges, il peut cliquer sur un lien à partir du site Sacoche et ça l'envoie sur des pages que j'ai préparées préalablement de remédiation de chez lui, c'est-à-dire que l'élève peut-être ne sait même plus ce que ça veut dire, il voit un item où il a rouge-rouge, c'est peut-être du langage de prof de maths, c'est pas forcément très simple pour lui de savoir ce que ça veut dire exactement, ou les parents qui voudraient l'aider, en cliquant sur le lien, ça les envoie sur des pages, soit d'exercice, soit de rappel de cours, sur la notion précisément, donc ils peuvent revoir exactement de quoi il s'agit, se réentraîner, retravailler, et quand ils sont prêts, quand ils estiment que maintenant ils le maîtrisent, par un clic de souris, c'est extrêmement simple, il me demande de se faire remédier. Et la semaine d'après, à un moment convenu, je reprépare une évaluation à l'élève sur l'item qu'il m'a proposé.
Alors, vous nous parliez de compétences. Est-ce que ces compétences sont généralisées pour toutes les matières ou sont vraiment des compétences vraiment spécifiques à chaque matière ? C'est quoi ces compétences dont vous nous parlez ?
Il y a des compétences qui sont liées à la matière. Je connais le théorème de Pythagore, je sais utiliser le théorème de Pythagore ou d'autres. Et il y a des compétences... qui est d'ailleurs plus un savoir-faire, si on veut être un peu technique en termes de pédagogie, et rigoureux sur le vocabulaire. Là, c'est plus un savoir-faire. Je sais faire, je sais poser une division, je sais tracer un cercle, bon, peu importe. Après, il y a des compétences plus larges. Je sais résoudre un problème, je sais rédiger avec rigueur, je sais... Bon, et puis, il y a après des compétences sociales. Je rends une copie propre, je suis concentré dans mon travail, je suis concentré en classe, je fais mon travail à la maison. Et on peut mêler tout un tas de compétences propres à une matière ou d'autres transversales. Après, c'est à la liberté de chaque équipe pédagogique de voir si on décide de faire une matière transversale sur, par exemple, le travail personnel et chaque collègue de chaque matière abonde en mettant des évaluations ou si c'est... ou chaque matière qui détermine, lui, sa compétence à lui de travail, c'est chacun qui détermine, tout est paramétrable. Nous, on travaille sur Bellevue, où chaque collègue qui utilise l'évaluation par compétence évalue lui-même dans sa matière, le travail personnel, par exemple, ou l'investissement en classe, etc., avec ce qui permet à l'élève, y compris, de se positionner très clairement là-dessus. Il voit bien ce qu'il a comme rouge ou vert-vert.
Alors, est-ce que c'est pas compliqué pour vous, professeur, justement dans la remédiation, de prendre cas par cas, on a 30 élèves peut-être par classe, entre 25 et 35 élèves, est-ce que c'est pas compliqué en tant que prof de pouvoir durant toute l'année suivre les lacunes de chacun? Vous vous situez comment à ce niveau-là en tant que prof?
Mais l'évaluation par compétences, elle est extrêmement à la mode en ce moment. Je vais venir à votre question après, mais pour expliquer, elle est à la mode, notamment dans les couloirs ministériels depuis quelques temps. Il y a eu la conférence nationale sur l'évaluation au mois de décembre. Tout le monde en parle. L'évaluation par compétences, c'est pas nouveau. Ça fait des années, voire des décennies. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre il y a quelques mois. Ce qui est nouveau, moi ça fait 5 ans que je la pratique, mais ce qui est nouveau depuis grosso modo 6 ans, on va dire, je pense, le logiciel Sacoche, il a 6 ans et quelques, c'est Internet. Et pour répondre à votre question, il y a 25 ans ou 30 ans, il y a des collègues qui évaluaient par compétences. C'était une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il fallait des fiches pour chaque élève, il y avait un classeur avec des croix dans des tableaux qui étaient un truc complètement chronophage, qui était décourageant au possible, où ça prenait un temps infini. Aujourd'hui, d'avoir une web application comme Sacoche, a fortiori gratuite, et qui fait tous les algorithmes de calcul, qui génère tout, c'est d'une simplicité redoutable. Et donc toute la différence qui fait qu'aujourd'hui ça devient la mode, vraiment, ce n'est pas une idée nouvelle. La nouveauté, c'est qu'on a aujourd'hui des outils technologiques qui nous permettent de la mettre en application très simplement. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui, depuis 5-6 ans, s'y replongent avec bien plus d'ardeur que ceux qui bossaient il y a une vingtaine d'années. Parce que moi, j'ai eu des profs de maths qui essayaient de travailler comme ça. Mais c'était de fait ingérable au quotidien pour 30 élèves, pour les raisons que vous donnez. Gérer 30 élèves différenciés sur toi, tu refais le théorème de Pythagore, et toi, tu fais des équations, et toi, tu fais ceci, c'est ingérable avec du papier.
Moi, j'ai un ordinateur. C'est gérable aujourd'hui,
Moi, j'ai deux clics de souris, et je sais que demain matin, j'ai une évaluation dans tel troisième, je sors un papier, je le sers sur mon imprimante, et je sais que Raoul m'a demandé ta, Simone m'a demandé ta, et j'ai mon truc. Après, ça me demande, moi, en préparation, d'avoir des exercices
personnalisés
ou des problèmes. Pas forcément personnalisé, mais c'est-à-dire que tel élève va me demander le théorème de Pythagore puisque je m'acharne sur ce théorème, par exemple, et ben moi, ça me demande de lui préparer un exercice correspondant, mais ça, c'est mon job. J'en ai, de toute façon, avec un peu de pratique, on a, concernant l'ensemble du programme, des batteries d'exercices qu'on refait plus ou moins, qu'on décline sous plein de façons
différentes. Donc vous allez proposer des exercices personnalisés. Par contre, là, vous allez personnaliser les exercices.
L'exercice, il ne sera pas personnalisé. C'est-à-dire que je vais refaire ma situation devant 30 élèves, où chaque élève va choisir les compétences ou les savoir-faire qu'il va redemander de retravailler lui. Pour l'instant, je les limite à 3 quand ils font des remédiations, pour que ça reste gérable. Donc chaque élève a le choix, ou de rien demander, ou de demander 1, 2 ou 3 compétences à être réévaluées. Et moi, je leur sors un sujet, et je leur distribue, et chaque élève pointe, il sait qu'il doit faire, elles sont référencées. Celui qui m'a demandé, un élève, il a un petit bandeau de papier, où il m'a, lui, indiqué sur Internet qu'il voulait faire telle et telle et telle compétence, et dans le sujet, il pioche les 3 compétences qu'il m'a demandé, et il ne fait que ces 3 compétences-là, et donc il est évalué là-dessus, et tous les élèves ont donc finalement un sujet où il y a peut-être 30 exercices dans le sujet que je donne, et chacun doit en faire 1, 2 ou 3 selon ce qu'il a choisi. Et moi, je corrige à la fin. Donc, mes deux élèves qui choisissent la même évaluation, enfin, le même item, referont le même exercice.
Alors, l'accueil. Bon, les profs, je pense que vous êtes un convaincu, hein, puisque c'est vous qui l'amenez.
Moi, je suis militant pour ça. Je suis adhérent à l'association Césamat. J'ai découvert ça un petit peu par hasard ou par curiosité, parce que je connais l'association Césamat, je lui fais confiance, et je connaissais celui qui avait fait le logiciel, et je lui faisais confiance, et donc je me suis embarqué un peu en aveugle, mais en aveugle en faisant confiance à l'équipe, parce que je savais que c'était des gens sérieux et rigoureux, et ça m'a changé ma pratique complètement.
Et chez vos collègues, peut-être des non-convaincus, est-ce que vous les voyez, même s'ils n'utilisent pas, tenter pour essayer, ou vous sentez comment ?
Il y a toutes les réactions possibles. Après, moi, j'ai fait 3 établissements en 3 ans, par suite de mutations, comme je viens de la région lyonnaise. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de collègues. Comme je suis un peu militant sur le sujet, j'essaie de présenter ma pratique sans du tout rejeter. On peut être un excellent professeur en notant sur 20. Et loin de moi l'idée de penser que je suis meilleur. Et on peut être un très mauvais prof en évaluant par compétence. Il n'y a absolument pas de hiérarchie ou de... Je pense quand même que globalement, c'est une pratique qui est bien meilleure pour les élèves et pour le prof. Et donc moi, j'ai envie de la faire partager autour de moi. Après, les réactions, elles sont un peu diverses. Ça demande quand même une envie de se jeter un peu, de se jeter à l'eau et de prendre des risques. Pour être clair, imaginez un collègue qui a 45 ans, ça fait 20 ans qu'il travaille avec d'une certaine façon, il est content de ce qu'il fait, il peut être un excellent professeur en notant sur 20. Prendre le risque de tout perturber, de se lancer dans une aventure en évaluant complètement différemment, avec la crainte que les élèves ne comprennent pas, qu'on ait les parents sur le dos, que ce soit chronophage, que je n'y arrive pas, c'est de fait anxiogène. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui ont une écoute, et on peut avoir des discussions, ils me demandent, et des échanges, et il y a pour le moins une curiosité, voire un intérêt réel. Après, de là à mettre en place par la pratique, se lancer tout de suite, c'est pas très simple. Ça se fait un peu, on dit par capillarité, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur Bellevue, je suis arrivé en cours d'année l'année dernière, je m'y suis lancé, et c'est par la pratique, par ma réalisation au quotidien, que des collègues ont dit « Tiens, ce que tu fais, ça a l'air de marcher, ça tient à peu près la route. » Il y en a quatre qui s'y lancent un petit peu. Après, on peut espérer que, comme ça, d'autres, par la pratique, mais ça demande un accompagnement. Donc ça demande, parce que c'est vrai qu'on se retrouve face à... Il faut maîtriser un logiciel, il faut maîtriser une pratique complètement différente. Donc c'est... Il y a des collègues qui ont peur, et je peux le comprendre, hein, est-ce qu'ils risquent pas de faire moins bien en voulant faire mieux? Le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce qu'il vaut pas... Bon. Donc, il y a...
Est-ce qu'il y a des réticences, vraiment des gens qui sont contre, qui vont militer contre ce genre de notation?
Alors, le terme militer contre, ça me paraît excessif, mais il y a des gens qui sont contre, en disant, voilà, on a toujours fait comme ça. Et puis...
Surtout dans un lycée comme Bellevue, où le taux de réussite est quand même assez exceptionnel. Au niveau
oui, dans un lycée privé, c'est pas forcément, c'est peut-être un petit peu étonnant de voir ça. Peut-être dans l'image qu'on peut avoir d'un lycée. Moi, ça me voilà. Moi, je suis dans le privé comme ça, ni par choix, ni par. Je trouve que je suis là comme ça. Et moi, ma pratique, les élèves, pour moi, là, comme ça, c'est les mêmes, et je fais pas de distinguo. Non. Après, il y a des collègues qui sont contre parce que. Il y a un peu d'ironie en disant « Ah, tu mets des pastilles rouges et des pastilles vertes pour rigoler comme à la maternelle. » Bon, il y a ceux qui refusent un peu de comprendre en disant qu'on met plus de notes, qu'on évalue plus, et que ce qui n'est pas le cas du tout. Au contraire, moi, j'évalue bien plus précisément l'élève, puisque l'élève a... Des fois, je prends le parallèle avec une analyse de sang. Vous allez vous faire une analyse de sang. Le laborantin, il vous rend pas un truc en disant votre sang, il vaut 13 sur 20. Et ça veut dire quoi d'avoir. Quand on veut savoir si je suis en bonne santé ou pas, mon sang, on l'étalonne sur tout un tas de paramètres extrêmement précis. Je suis très incompétent. Mais il suffit qu'il y ait un paramètre qui soit extrêmement mauvais pour que vous puissiez être en très mauvaise santé ou avoir plusieurs paramètres peut-être pas très très bons et c'est pas très grave. Mais il faut faire une étude au cas par cas. C'est-à-dire la glycémie, je sais pas quoi, le cholestérol, peu importe. On prend tous les cas un par un. Il y a un attendu par rapport à votre âge, votre morphologie, votre je sais pas quoi. On attend quelque chose. Vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous. Moi, je travaille comme ça. Et du coup, ça donne quand même une vision bien plus globale, bien plus rigoureuse d'un avis sur un élève. Mais je mets donc plus de notes quelque part. C'est-à-dire que je ne rends pas tiens, débrouille-toi avec un 13 sur 20. Je donne 10 notes, 15 notes à l'élève. Après, il y a des collègues, voilà, peut-être, le fait que ça devienne poussé par le ministère et que ça devienne très à la mode, il y a des collègues qui sont revêches à... ce qui est plutôt mon cas traditionnellement, moi je me retrouve du coup, moi je travaille comme ça bien avant que ce soit dans la mode dans les couloirs ministériels, et j'ai plutôt eu traditionnellement comme attitude ou comme de me retrouver contre les consignes qui venaient d'en haut, de fait, comme ça, j'ai pas par choix, mais je me retrouve souvent plutôt un peu rebelle ou contestataire, on va dire. Là, je trouve cocasse la situation que ma pratique qui a été un peu... contre la pratique un peu attendue depuis 5 ans, on se retrouve maintenant dans les couloirs des ministères. Bon, c'est comme ça. Donc il y a des collègues qui sont un peu revêches parce que ça vient d'en haut. Et du coup, le grand débat que Benoît Hamon a lancé et repris par Mme Vallaud-Belkacem sur la conférence nationale sur l'évaluation qui a lieu au mois de décembre, où tout le monde en a parlé, puis finalement on a l'impression que la montagne est accouchée d'une souris parce que la commission a rendu un rapport un peu mi-chef, mi-chou, et on sent que ça ne va pas aller très loin. On ne peut pas imaginer de toute façon une consigne ministérielle disant 1er septembre 2015, tout le monde évalue par compétence. L'éducation nationale ne peut pas fonctionner comme ça, et je serai contre. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas une pédagogie merveilleuse, miraculeuse, qui va résoudre tous les problèmes de l'éducation nationale. Les problèmes, ils sont multiples. Et je ne crois pas qu'il y ait un truc d'une façon miraculeuse. Je ne prêche pas en disant que j'ai découvert... ça ne résout pas tous les problèmes. Ça résout des problèmes. Ça permet de faire avancer les élèves, je trouve. Ça rend une relation entre le prof et l'enseignant.
Il y a des bons résultats, justement, de la part des élèves. Je pense qu'il faut à un moment faire un bilan, regarder. Hein, est-ce qu'il y a plus de réussite au niveau
Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'étalonnage. C'est-à-dire que... comment vous voulez mesurer les résultats des élèves? Sur des moyennes? Qu'est-ce que ça veut dire? Les moyennes, est-ce que... un élève qui a 13 en maths avec un collègue, il aurait 11 de l'autre côté. Qu'est-ce qu'une moyenne? D'où elle vient? Et est-ce que les élèves sont meilleurs ou pas? Ça me paraît... Là, c'est un débat extrêmement ésotérique.
Peut-être pas de manière...
C'est impossible à déterminer, ça. Par contre, moi, ce que je sens, très nettement, c'est
de manière qualitative peut-être. On ne peut pas quantifier, mais peut-être qu'on peut justement
donc pour là
vous
pour le
pouvez
coup
constater que
là
les
pour le coup
élèves.
moi j'ai pas de doute et c'est ça qui me convainc tant des parents que des élèves, l'aspect remédiation, c'est-à-dire que j'ai droit à l'erreur et j'ai les outils. Une fois que le prof me rend une copie sur laquelle il me pointe ce que je ne sais pas faire, que je n'ai pas compris, qui me donne des outils pour le retravailler et me permet de me refaire réévaluer, là c'est clairement plébiscité par les élèves. Maintenant, et par les parents. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'enfants, y compris l'approche de l'évaluation. Moi, je me rappelle d'élèves pleurant, vraiment, en troisième, vous rendez à la fin d'une épreuve ou quand vous rendez une note, des élèves qui pleurent. Enfin, c'était quasi même un traumatisme que j'avais quand je rendais des copies, quand je notais souvent. Moi, j'ai noté souvent pendant plus d'une dizaine d'années, où j'avais des stratégies pour, je me rappelle, en montant dans les escaliers, prendre les élèves en aparté pour leur dire, tu sais, t'as pas bien réussi, faut que tu te prépares parce que ces sanglots, l'élève disant, mais ma carrière est foutue. En troisième, les élèves, ils passent le bac, on a l'impression chaque jour, je pourrais jamais faire ma première année, j'ai pris deux en maths, donc je serai jamais vétérinaire et ma vie est foutue. Mais tu n'as
Beaucoup
pas
de
essayé.
pression par rapport à
Mais oui,
l'orientation.
et une pression des parents, une pression de tout le monde, même si les parents ne sont pas forcément. Il y a une pression. Et puis quand on vous rend un 2 sur 20, vous êtes ramené à. Vous êtes vraiment, vous êtes lamentable par rapport à vos copains. Tout le monde te dit, t'as eu combien? On vous demande, après avoir dit bonjour, c'est t'as eu combien? Tu rentres à la maison, t'as eu combien? Et vous prenez avec le 2 dans la figure. L'avantage d'évaluer par compétence, c'est que l'ensemble des compétences. On note plus, il n'y a plus cette note globale. L'évaluation, elle est bien plus diversifiée sur 8, 10, 12 items. Et donc. On peut déjà voir un peu plus, on peut déjà voir ce qui va bien et ce qui va pas bien, et ça renvoie pas l'élève à un nombre, particulièrement s'il est mauvais, et sachant qu'il a des outils pour retravailler. Et moi, je vois des élèves maintenant qui me disent, bah, monsieur, je me suis rendu compte à l'évaluation que je sais pas faire. J'avais ça encore la semaine dernière en évaluation, l'élève désespéré, monsieur, j'y arrive pas, je croyais que j'y arrivais. Mais là, le discours est bien plus apaisant. Ben, c'est pas grave. Tu réponds pas, ok. Tu te rends compte maintenant en évaluation que tu ne sais pas faire.
Donc l'élève participe plus en fait à son apprentissage,
Et il sait
hein,
qu'il n'est pas
il prend
pénalisé.
conscience de
Il sait qu'il va
certaines.
se prendre un rouge-rouge. Il sait que je sais résoudre une équation. Ben, il se rend compte à qui il sait pas faire. Il croyait savoir. Il s'était entraîné chez lui. Mais chez soi, on peut se faire entraîner. Mais j'ai le corrigé à côté. Il y a ma mère qui vient m'aider. Il y a je sais pas quoi. Je vais trouver une information et je suis pas vraiment en situation de l'évaluation où je suis seul face à une copie. Et les élèves, c'est un apprentissage qui n'est pas simple. Mais précisément, les élèves, il faut leur apprendre ça. Leur dire, bah tiens, peut-être que la façon dont tu travailles, elle t'a donné une illusion de réussite, une illusion de savoir. Et de fait, quand t'étais seul devant moi, là, tu ne savais pas faire.
Donc on va travailler ce point que.
Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disaient, ouais, précisément, il y a des élèves qui me disaient, ah, mais j'y arrive pas quand je suis en éval, je suis stressé. Mais c'est pas qu'il n'y arrive. Le stress, il vient parce qu'il n'y arrive pas. C'est pas l'éval qui est stressante. L'éval, quand on sait faire, on sait faire. C'est précisément quand je ne sais pas faire, je panique, là j'ai du stress, mais le stress est une conséquence, ce n'est pas la cause de l'échec. Et là du coup, on arrive à. Moi j'ai des parents qui m'ont dit, j'ai fait des sondages, des enquêtes auprès de parents et d'élèves, les parents qui me disent, mon enfant, avant d'aller en évaluation de maths avec la boule au ventre, il ne dormait pas, là il arrive de façon bien plus apaisée. En pédagogie, on parle d'évaluation formative ou d'évaluation sommative. On va pas être forcément trop technique, mais une évaluation. Moi, je sais pas pour être pour reprendre mes élèves, mes enfants sont allés à l'école de ski pendant les vacances pour passer le flocon. Bon, ben comment est-ce que travaille l'école de ski l'école de ski pour les petits, en tout cas, il n'y a pas simplement une épreuve finale où l'enfant il passe son truc et là où il l'a pas. C'est tout au long de la semaine où le gamin il fait 2 heures de ski par jour. On apprend les choses une par une. Il y a un certain nombre de choses que l'enfant doit maîtriser pour passer son diplôme du flocon. L'entraîneur, le professeur lui fait faire plein de fois la même chose. On vérifie qu'il sait bien faire au continu tout le long et on valide. Au final. Parce qu'on a vérifié tranquillement, de façon extrêmement apaisée, les savoir-faire un par un. Bon, ben moi je fais pareil. Les évaluations, elles sont. Il n'y a pas d'interro-surprise. Prendre un élève à froid comme ça un lundi matin, en le plantant parce qu'il n'a pas travaillé le week-end, quel est l'intérêt, sauf du plaisir un peu du prof mais quel est l'intérêt de mettre une
Du
mauvaise note?
sadisme.
Bah, je ne sais pas. En tout cas, c'est une pression sur les élèves. Je dirais pas, il y a des collègues qui le font, qui ne sont pas sadiques. Mais en tout cas, ça met une pression que je trouve artificielle. Et moi, le contrat est clair. Il y a une évaluation vendredi. Le sujet, je leur donne pratiquement le sujet. Ils savent exactement sur quoi ils sont évalués. Il y aura le théorème de Pythagore, il y aura les équations, il y aura ça. C'est exactement ce qu'on a fait en classe. Bon, vous êtes, c'était le jour, ils ont tous les éléments pour le travailler, ils le travaillent, voilà, ils y arrivent pas. Il y a un aspect rassurant, moi, ce que j'appelle une relation de confiance. Je ne suis pas là pour les planter, je suis là pour les évaluer, pour les accompagner. Moi, je suis un entraîneur, en fait. Je vous prends comme un entraîneur de foot, un entraîneur, t'arrives, tu ne sais pas jouer au ballon, je t'apprends à jouer et on a des objectifs. Parce que tu dois savoir dribbler, faire des machins, des passes. On prend les problèmes un par un et on te monte pour arriver à un niveau de jeu. Mais il n'y a pas le coup près, la note sanction. On ne fait pas la finale de la Coupe du Monde tous les jours.
Alors, et les parents, vous en parliez un peu. L'acceptation, c'est plus difficile de ne pas avoir sa note qui arrive ou est-ce que c'est bien accepté quand même? Est-ce qu'ils comprennent la philosophie de cette nouvelle notation?
Il faut expliquer. Il faut expliquer parce que... particulièrement quand moi je suis arrivé ici au lycée Bellevue, j'étais de fait pas connu parce que j'arrivais complètement. Nouveau prof qui arrive en maths, a fortiori une matière un peu élitiste, sur laquelle il y a beaucoup de pression sur les enfants, sur les parents, soi-disant importante pour l'orientation. Pas mettre de notes sur 20, ça change tous les repères et la vision traditionnelle qu'on a fortiori donc sur cette matière. Quand on n'est pas connu, on se dit qu'est-ce que c'est ce guignol qui vient nous mettre des pastilles rouges, est-ce que sa pédagogie elle est à l'avenant, ils vont jouer avec des cubes en cours ou est-ce qu'il va vraiment faire des maths? Donc il a fallu quand même, moi j'ai fait des réunions avec les parents pour leur expliquer, j'ai fait un petit tutoriel vidéo pour expliquer ma pédagogie, rassurer. Et même l'année dernière, où donc j'ai eu que 6 mois l'année dernière pour travailler comme ça sur Bellevue, il n'y a eu aucun problème.
Ça s'est bien passé.
Moi tous les retours que j'ai eus, il y a eu, de fait, des fois, des parents soit un peu inquiets ou comprenant pas, ou étant... parce que ce qui est difficile quand même, en tout cas dans ma pratique, en troisième et en seconde, c'est quand je suis le seul à travailler comme ça. Du coup, il n'y a pas d'habitude de fonctionnement. Le logiciel sur lequel, moi, je répertorie toutes mes... le logiciel sacoche que j'utilise, où je répertorie tous les savoir-faire de mes élèves, je suis le seul à travailler dessus, où j'étais le seul. Maintenant, il y a... la difficulté qu'on a, c'est que je suis le seul en fait à travailler avec le logiciel Sacoche. En tout cas, j'étais le seul. Maintenant, il y a Madame Bail, notamment en troisième. On est 2 collègues. En 6e, ils sont 4 collègues, donc c'est plus simple. Mais quand on n'est pas nombreux, quand on est seul ou que 2, ça demande un effort supplémentaire d'aller sur le logiciel spécifique pour les maths, ou là, en l'occurrence, que pour les maths et l'anglais, alors que l'ensemble de l'établissement a un logiciel de notes spécifique où il y a toutes les informations. Donc on fait un peu chambre à part sur un logiciel un peu spécifique. Du coup, ça demande un peu une démarche, un investissement ou un intérêt des parents. Du coup, il y a des parents qui ont peut-être ou pas le temps, la préoccupation, ou qui ont pris un peu de retard. Et donc il y avait des parents qui, peut-être au début, ont un petit peu patiné, étaient étonnés ou comprenaient pas bien. Parce que ça demande de se pencher sur la pédagogie du prof de maths, ou en l'occurrence ici maintenant de la prof d'anglais, pour comprendre exactement... Mais tous ceux qui ont fait cette démarche-là, moi j'ai fait maintenant des réunions au mois de septembre, à la rentrée, là il n'y a eu aucun problème cette année, c'est bien plus... Et puis les élèves, il y a tout un travail à faire pour les mobiliser. Moi j'ai pas eu de retour négatif, au contraire, tous mes retours, que ce soit des enquêtes statistiques ou des sondages comme ça, c'est que du... globalement, que soit des gens sceptiques pour le moins, c'est-à-dire qu'ils disent oui, bon, pourquoi pas, mais sinon c'est favorable. J'ai eu aucun avis négatif formulé clairement en disant votre système ne tient pas la route, il n'est pas... Ça, je n'ai pas eu.
Comment est-ce qu'on arrive à étalonner à la fin de l'année pour dire cet élève peut passer en première, à le niveau, justement parce qu'il n'y a pas de notes pour s'étalonner avec le système classique?
Alors là, le logiciel Sacoche, il est très paramétrable, il permet plein de choses. Dans ma pratique ici, à l'établissement Bellevue, si je prends l'exemple des classes de 3e, on n'est que 2 à utiliser ce logiciel-là. En seconde, je suis seul. Donc on est obligé de se ramener à chaque trimestre à une note sur 20. C'est-à-dire que dans le bulletin de chaque trimestre, l'élève, en 3e, puis de fait, c'est obligatoire pour le brevet, puisque le contrôle continu compte, il faut forcément qu'en maths, il y ait un 8, un 12 ou un 15. Donc la moyenne, moi, qui va être la résultante de toutes les évaluations, c'est pas comme les collègues, des moyennes un peu pondérées avec des coefficients qui sont, pour en discuter longtemps, mais qu'est-ce que c'est qu'une moyenne que les collègues font? Je mets le brevet blanc qu'au F3, tel interro qu'au F1, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une compétence qui est faite le jour d'un brevet blanc vaut 3 fois plus que la même compétence Le théorème de Pythagore qui est fait le jour du brevet blanc, il compte trois fois plus que le théorème de Pythagore fait le jour d'une interro classique. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je trouve ça bizarre. Et du coup, les moyennes qu'on sort, d'une façon générale, moi, je suis extrêmement méfiant sur ce qu'on leur fait dire. Bon. Mais en tout cas, moi, dans notre pratique, le logiciel Sacoche, il permet, grosso modo, pour faire court, si je mets rouge-rouge à un élève, dans la compétence, il va avoir 0% d'acquisition. Si je mets un rouge, c'est-à-dire que tu as fait un petit peu, c'est pas énorme, on va dire 33%. Si tu pratiques raisonnablement cette compétence-là, tu as un vert à 67%, deux tiers. Et si tu as parfaitement compris cette compétence-là, tu as un vert-vert, ça fait 100%. Pour chacune de mes compétences, on va arriver en fait à un pourcentage de réussite. L'avantage, c'est qu'avec les remédiations, je peux améliorer ce pourcentage. Si j'ai un rouge-rouge, j'ai donc 0% sur cette compétence-là, je peux demander à me faire remédier. Et si j'ai un vert-vert le coup d'après, je vais essayer de ne pas être technique, mais pour motiver l'élève, le vert-vert, il est coefficient 2. C'est-à-dire que la nouvelle évaluation, elle compte deux fois plus que la précédente, pour bonifier, pour avoir le droit à l'erreur. Et donc, si on prend un exemple, c'est pas très simple comme ça à l'oral, c'est plus simple de le visualiser, mais si j'ai un rouge-rouge, j'ai 0, et qu'après j'ai un vert-vert à 100%, le 100% code QF2, ça me fait 67% de moyenne sur ma compétence. Ça bonifie ma réussite. Ça bonifie mon échec. C'est-à-dire, si je me trompe la deuxième fois, il est aussi coefficient 2. Mais ça donne... L'idée, c'est de dire ce qui compte, c'est demain et c'est pas hier. Ou c'est aujourd'hui et demain. Et du coup, après, le logiciel fait une moyenne de toutes ces compétences-là. Mais 67%, 30%, 40%, il en fait une moyenne qu'on ramène sur 20. Mais l'avantage, c'est que les élèves, moi, au quotidien, quand ils vont sur le logiciel Sacoche, un élève voit qu'aujourd'hui, il a 8,6 de moyenne, admettons. Il nous reste 15 jours avant la fin du trimestre. Il dit, oulala, j'ai pas la moyenne. Si je veux remonter, ben c'est facile. Je prends tous ceux où j'ai 0% de moyenne, mes rouges-rouges. Je demande au prof de me refaire évaluer sur tel, même celui du mois d'octobre, c'est pas grave. Et si je les valide d'ici la fin du trimestre, mon 0% va être transformé en 30, 40, 60% selon ce que j'obtiens à ma remédiation. Et la moyenne, l'élève, il est acteur de son savoir. Ce qui est génial dans cette pratique, c'est que l'élève, il est acteur, il n'est pas passif en disant « j'ai 8 sur 20, je comprends rien ». J'ai 8 sur 20 parce qu'il y a ça, ça et ça que je n'ai pas compris. J'ai les clés pour me remettre, je retrousse mes manches, je peux demander au prof, il y a du soutien, je peux me refaire aider et je retravaille ce que je n'ai pas compris. Et du coup, ça permet de l'élève qui a 8 sur 20, s'il veut donner les moyens, ben il peut se... Alors après, il n'y a pas de miracle. Je ne suis pas un brandeur d'aspirateur ou de tapis en train de vous dire qu'on a découvert le produit miracle qui fait le ménage et qui fait qu'il n'y a plus de mauvais élèves et qu'il n'y a plus de poussière. Il y a des problèmes et les élèves qui sont démobilisés ou qui ont... De fait, il y a les élèves qui ont des lourds passifs en maths, il n'y a évidemment pas de recette miracle. Il ne s'agit pas de dire que c'est la grande...
Ah, c'est votre talent qui joue.
Non, mais il y a... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas... On n'a pas découvert le... voilà, il y a pas, c'est pas la grande fraternité des maths où tout le monde adore ça et les élèves en redemandent tous les matins et sont contents avec 18 de moyenne générale. Il y a toute une réalité qui fait que des élèves ont des difficultés personnelles et pour qui même ces stratégies-là sont pas forcément efficaces. Mais globalement, et ça change aussi beaucoup le regard du prof, enfin la relation entre le prof et l'élève. Je ne suis plus l'évalu, je suis plus simplement celui qui sanctionne. Je suis vraiment l'aspect entraîneur, moi, me convient bien. Voilà, je suis un accompagnateur. Et quand tu n'y arrives pas, je te rends ton évaluation, il n'y a que du rouge-rouge. Ben maintenant, on se retrousse les manches. Tu as vu là, ça, ça et ça. Alors, tu vas à tel endroit, tu peux le retravailler. Pour jeudi prochain, je t'attends. Et c'est plus, tu rentres chez toi, tu pleures.